is a song that comes from Tanzania. Malaika.
Galère. Bonjour, chères auditrices et auditeurs de Livres et Amis pour cette émission du mercredi 4 octobre. Oui, c'est encore vraiment l'été, mais nous sommes le 4 octobre. Nous avons eu des week-ends culturels très occupés cette semaine, la semaine dernière, etc. Et là, à la fin de la semaine, commence la Fête de la Science. Donc le site, c'est Fête de la Science en un seul mot. Et il y a plein de choses, plein de programmes, plein d'événements dans Marseille, hors Marseille, pendant une dizaine de jours, concernant bien sûr l'eau, le climat, le ciel. Il y a au planétarium, par exemple, des rencontres, la mer, des rencontres au CNRS aussi, dans les labos du CNRS, dans les musées, en particulier au musée d'histoire naturelle, dans les bibliothèques, etc. Alors, pendant qu'on parle musée, je tenais quand même à vous rappeler la programmation des rencontres du musée d'histoire de la ville de Marseille. Le musée est encore fermé en raison de problèmes techniques, mais par contre, l'exposition Trésor coupable est ouverte. Et il y a chaque semaine des animations au musée, dans l'auditorium. En particulier les mardis ou mercredis soirs, des rencontres autour des expositions en cours. Et c'est vrai que, par exemple, hier soir, il y a eu un exposé, une conférence absolument passionnante sur justement les objets volés et les objets orphelins qui sont, on pourrait dire, déviés de l'archéologie et des expositions officielles. Alors, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir ces conférences qui sont faites par des universitaires connus en pleine recherche en général et qui donnent un éclairage très personnel et très pertinent sur les expositions en cours. Et puis, bon, bien sûr, toujours le cinéma. Aujourd'hui sort le procès Goldman. Il est à l'affiche pendant 2 semaines à l'Alhambra. Et puis, bien sûr, il y a d'autres choses intéressantes au Gyptis, à la Baleine, enfin, comme d'habitude. Et aussi des rencontres dans nos librairies favorites. L'Hydre à mille têtes, l'Histoire de l'œil, les bouquinistes du cours Julien. Enfin, bon, plein de trucs comme d'habitude. Revenons au livre, justement, quand même, c'est notre sujet, n'est-ce pas? Alors, j'avais envie de lecture sur les femmes africaines, je crois que je vous les avais annoncées, et puis j'ai pas eu le temps d'acheter ou de commander les livres que je voulais vous faire découvrir. Comme Françoise m'avait parlé il y a pas très longtemps de Sorge Chalandon, écrivain et journaliste connu et reconnu, je me suis dit oui, pourquoi pas. J'avais justement dans mes rayonnages Le Quatrième Mur, offert par un ami qui connaît mon intérêt et mon goût pour le théâtre. Alors bon, pourquoi pas Le Quatrième Mur? Allons faire un tour du côté du Quatrième Mur, me suis-je dit. Oui, vous savez, au théâtre, le Quatrième Mur, c'est celui qui sépare la scène de la salle ou la salle de la scène, ce quatrième mur invisible et symbolique, autrefois représenté par le rideau qui s'ouvrait ou se levait. Rideau, à l'heure actuelle, très souvent disparu dans les mises en scène contemporaines. Mais le quatrième mur, même invisible, c'est celui de la fiction, c'est celui qui permet à l'acteur de jouer un personnage et qui permet au spectateur de rester assis dans son siège et pas de venir sur scène prendre part à l'action. Alors, dans le roman de Sorge Chalandon, le quatrième mur apparaît ou disparaît au gré de l'auteur pour maintenir le lecteur éloigné des personnages ou au contraire pour le projeter à leur côté dans l'action de l'histoire en tant que telle. Le quatrième mur se passe en grande partie au Liban et Sorge Chalandon choisit au départ, dans le premier chapitre du roman, de nous précipiter dans la guerre du Liban. Tout à l'heure, on se retrouvera dans des choses plus paisibles. Là, je vais vous lire le début. avec des petites interventions de Françoise qui va nous jouer de temps en temps, une ou deux lignes, les interventions des personnages qui arrivent dans l'action. Donc, de temps en temps, vous entendrez Françoise. J'espère qu'il n'y aurait pas trop de décalage entre nos lectures. Voilà. Alors, le premier chapitre, donc, il est titré « Tripoli, nord du Liban, jeudi 27 octobre 1983 ». Je suis tombée. Je me suis relevée. Je suis entrée dans le garage, titubant entre les gravats, les flammes, la fumée, la poussière. Je recrachais le plâtre qui me brûlait la gorge. J'ai fermé les yeux, les mains sur les oreilles. J'ai heurté un muret, glissé sur des câbles. La moitié du plafond avait été arrachée par l'explosion. Le ciment, quelquefois en feu, frappait tout autour avec des bruits de claques. Et derrière une carcasse de voiture, un trou. Une crevasse de guerre, un bitume ouvert en pétales jusqu'à son cœur de sable. Je me suis jetée à travers les éclats comme on trébuche, corps chiffon, le ventre en décombre. Je tremblais. Jamais je n'avais tremblé comme ça. Ma jambe droite voulait s'enfuir, me quitter. Une sauterelle apeurée dans les herbes d'été. Je l'ai plaquée à deux mains sur le sol. Elle saignait, ma jambe folle. Je n'avais rien senti. Je croyais que la blessure et le blessé ne faisaient qu'un, mais non. Je croyais qu'au moment de l'impact, la douleur hurlait son message, mais en fait, c'est le sang qui m'a annoncé la mauvaise nouvelle. Ni choc, ni mal, seulement ce jus poisseux sur mon pantalon déchiré. Il fumait, mon pantalon. Ma jambe élançait comme une rage de dents. Ma chemise était collée de sueur. J'avais pris mon sac, j'avais laissé ma veste dans la voiture de Marouane, mes papiers, mon argent, tout ce qui restait. Ah, je pensais plus qu'au char d'assaut qui allait ouvrir le feu sur le taxi.
Sors de là, Georges.
Nous roulions le long de la côte. Le soleil se levait derrière les collines. Juste après le virage, un tank. Un tank syrien, couleur sable, embusqué, immense. Il nous barrait la route. Mon Druze a juré. Il a freiné brusquement. Je dormais, j'ai sursauté, il a paniqué, fait marche arrière sur le talus qui surplombait la mer. La carapace s'est réveillée. Presque rien, un souffle, juste le métal du canon qui pivote.
Mets-toi à couvert, putain!
J'ai plongé la main vers la banquette arrière, pris mon sac, cherché ma veste, mon passeport, sans quitter la mort des yeux. Et j'ai renoncé, je trouvais pas, la gueule d'acier nous faisait face, vacarme dans ma tête.
Il ne va pas tirer. Il ne peut pas tirer sur un taxi.
Un losange rouge et un rond jaune étaient peints sur la tourelle, figure familière de tableau d'écolier. Et aussi trois chiffres arabes au pochoir blanc. Marouane traversait la route, déjà courbé en deux. Il marchait vers l'abri, un garage fracassé sur le côté. Les murs étaient criblés d'éclats, noirs de suie. J'ai ouvert ma portière, couru, bouche ouverte, vers la ruine béante.
« Quand les obus tombent, ouvre la bouche », m'avait dit mon ami la première fois. « Si tu ne décompresses pas, tes tympans explosent. »
Lorsque je suis entrée dans le garage, il ressortait en courant.
« J'ai laissé les clés sur le tableau de bord. »
« Les clés ? Mais la phrase était absurde. Le canon, il nous suivait. Moi qui entrais, lui qui sortait, le canon hésitait entre nos épouvantes. Et puis le coup est parti. » Alors que je posais le pied sur l'ombre. Et je suis tombée, comme on meurt, sur le ventre, front écrasé, nuque plaquée au sol, par une gifle de feu. Dedans, dehors, les pieds sur le talus, les mains sur le ciment, mon corps était sidéré. Une lumière poudrée déchirait le béton. Je me suis relevée, la fumée lourde, la poussière grise, je suffoquais, j'avais du sable dans la gorge, la lèvre ouverte, les cheveux qui fumaient, j'étais aveugle. Des paillettes d'argent lacéraient mes paupières. Ah oui, l'obus avait frappé, mais il n'avait pas encore parlé. La foudre après l'éclair. Un acier déchiré, odeur de poudre, d'huile chaude, de métal brûlé. Je me suis jetée dans la fosse au moment du fracas. Mon ventre entier est remonté dans ma gorge. J'ai vomi, j'ai hurlé ma peur, poings fermés, oreilles sanglantes, recouverts par la terre, salée, l'ombre, grasse. Le blindé faisait mouvement, il grinçait vers le garage, je ne le voyais pas, j'entendais juste le bruit, sa force. Le canon hésitait, droite, gauche, gauche, droite, mécanique enrouée. L'étui de l'obus avait été éjecté, choc du métal creux en écho sur la route. Silence.
C'est un T-55 soviétique, un vieux pépère.
J'ai sursauté. Voix de rocaille, mauvais anglais. Un homme âgé était couché sur le dos, dans le trou, à côté de moi, dans la pénombre. Je ne l'avais même pas vu.
Baisse la tête, il va remettre ça.
Caissier, barbe blanche, cigarette entre deux doigts, il fumait. Malgré le char, le danger, la fin de notre monde, il fumait, bouche entrouverte, laissant le nuage paisible errer sur ses lèvres.
C'est confortable ?
Il a désigné mon ventre. Bah oui, de mon ventre, j'écrasais les gravats, j'écrasais même sur le côté la crosse de son arme contre ma cuisse. Je m'étais jetée, en fait, sur un fusil d'assaut pour échapper à un obus. Bon, là, j'ai pas bougé, hein, et il a hoché la tête en souriant. Dehors, finalement, le blindé s'est mis en mouvement. Hurlement de moteur malmené.
Il recule, a soufflé le vieil homme.
L'ombre du tank avait laissé place à la lumière de l'aube et aux herbes calcinées. Il reculait encore. J'ai attendu le rire des muettes pour respirer. Je me suis soulevée, sur un coude, bouche ouverte. J'ai cherché Marouane dans le tumulte, puis dans le silence. J'ai espéré que mon ami revienne, agitant ses clés de voiture au-dessus de sa tête, en riant, chantant qu'il était fou d'être retourné à son taxi. Fou surtout de m'avoir suivi dans cette histoire idiote. Il allait me prendre dans ses bras de frère en bénissant le ciel de nous avoir épargnés. J'ai espéré longtemps. Dehors, des hommes tiraient à l'arme légère, des cris, des ordres, un vacarme guerrier, une longue rafale de mitrailleuse. Je me suis laissée rouler sur le côté, ma jambe saignait par giclée brutale. Le Palestinien a enlevé ma ceinture sans précaution et m'a fait un garrot à hauteur de la cuisse. Bon, maintenant j'étais couchée sur le dos, la douleur s'invitait à coups de masse. Il a installé une couverture sous ma tête, me levant légèrement contre le rebord du trou. Et alors là, j'ai vu Marouane, ses jambes dépassaient en travers de la route, il était retombé sur le dos, vêtements arrachés par l'explosion, nu et sanglant. Le char toussait toujours plus haut, plus loin, et la plainte du vent est revenue, le souffle de la mer. Le vieux Palestinien s'est retourné sur le flanc, un coude à terre, une joue dans la main. Il m'a observé, j'ai secoué la tête. Non, non, je n'avais plus de larmes, je ne pleurais pas. Il m'a dit qu'il fallait garder un peu de larmes pour la vie, que j'avais droit à la peur, à la colère, à la tristesse. Je me suis assis lourdement, j'ai repoussé son arme, il s'est rapproché, lui et moi, dans le trou. Accroché à sa boutonnière de poche, un insigne émaillé du Fatah. Il a pris mon menton délicatement, je me suis laissé faire, il a tourné mon visage vers la lumière du jour et puis il s'est penché. Sous sa moustache usée, il avait les lèvres entrouvertes, j'ai cru qu'il allait m'embrasser, mais non, il m'a observé, il cherchait quelque chose de moi. Il est devenu grave. « Tu as croisé la mort, mais tu n'as pas tué », a murmuré le vieil homme. Je crois qu'il était soulagé. Il a allumé une cigarette, s'est assis sur ses talons. Puis il s'est tu, regardant la lumière fragile du dehors. Oui, voilà. Donc, nous étions au Liban en octobre 83, il y a juste 40 ans. Et le roman libanais va se poursuivre. Mais après plusieurs flashbacks, après plusieurs très longs retours en arrière, qui expliquent au lecteur la situation de cet automne-là. Le personnage principal, qui vient de croiser la mort ce jour de 83 au Nord-Liban, c'est Georges, un Français d'une trentaine d'années. Il est là par fidélité à son amitié pour un metteur en scène grec, exilé du régime des colonels, rencontré 10 ans plus tôt à la Sorbonne, Samuel Akounis, Sam. Les 100 premières pages du roman racontent l'amitié de Georges et de Sam, leur militantisme, leur engagement dans bien des combats politiques et culturels des années 70 à Paris. Nous vous en lirons des extraits. Mais l'amitié de Sam et Georges repose aussi sur leur passion du théâtre. Et au début des années 80, Sam a décidé de mettre en scène, au Liban, l'Antigone d'Anouilh. En choisissant des acteurs dans toutes les communautés opposées par la guerre et parce qu'il est malade, mourant, il demande à Georges de prendre le relais. prendre le relais de cette mise en scène libanaise d'Antigone d'Anouilh. C'est assez simple finalement, c'est une histoire simple, oui. Mais en fait, pour moi, c'était pas simple du tout. Alors, pendant que je lisais, j'avançais bien sûr dans l'histoire de Saint-Mégeorge, mais aussi en même temps, je gardais à côté de moi ces scènes jouées par Jean-Quentin Châtelain dans Exécuteur 14. Exécuteur 14, cette pièce de Adèle Hakim, jouée en France, bah oui, au théâtre des quartiers d'Ivry, au théâtre de Saint-Denis, etc. Exécuteur 14, pour moi, c'était une vraie présence de la guerre au Liban. Et Adèle Hakim, c'était, ben oui, c'était le meilleur ami libanais, libano-égyptien, qui était là, directeur des théâtres des quartiers d'Ivry. Donc finalement, tout se mélangeait un peu. En plus, j'avais la pièce, là, Antigone, j'avais l'histoire du Liban, et puis surtout avec Adèle Hakim, j'avais le fait qu'il avait mis en scène pour des comédiens du théâtre palestinien de Jérusalem la fameuse Antigone. Alors je vais vous raconter quand même l'histoire de Saint-Mégeorge, je vais rester sur le côté de la route, et puis on va s'intéresser donc à cette façon dont Saint-Mégeorge vont finalement pratiquement ensemble mettre en scène l'Antigone d'Anouilh au Liban, et on reprendra l'histoire libanaise après ces flashbacks, ces retours en arrière qui nous présentent Sam d'abord et Georges ensuite et leur rencontre. Voilà Samuel Akounis, sa rencontre avec Georges.
Pendant des mois, je n'ai pas su que Sam était juif. Il était grec et ne prétendait rien d'autre. Souvent pourtant, les copains et moi nous sommes posés des questions. Il était étranger, plus vieux que nous, différent en tout. Je me souviens d'un jour d'avril 1974, marchant vers le palais de la Mutualité à Paris. Nous occupions la rue. À cause de son souffle court, Sam suivait sur le trottoir. Il était tendu, visage clos. À nos cris « Palestine vaincra », il répondait « Palestine vivra ». Sans que je m'interroge sur la différence qu'il faisait entre vaincre et vivre. Je portais un pot de peinture verte. Derrière, des camarades transportaient le blanc, le rouge et le noir. 2 heures avant une réunion sioniste, nous allions peindre un drapeau palestinien devant l'entrée du bâtiment. Il était levé, imposant, tranquille. Depuis 3 mois qu'il était réfugié en France, jamais je ne l'avais entendu durcir la voix, fermer les poings ou froncer les sourcils. Quand nous nous battions, il refusait de s'encombrer d'une barre de fer. Il disait qu'une bouteille incendiaire n'était pas un argument. Sam était grand, cabossé et musclé à la fois, taillé comme un olivier fourbu. Parfois, les gens le prenaient pour un flic. Ses cheveux courts et gris, au milieu de nos crinières de gauche, sa veste de tweed frottée à nos blousons, sa manière de dévisager un lieu, de scruter un regard, sa façon de ne jamais reculer. Ou alors, lentement, en marche arrière, défiant l'adversaire glacé par son sourire. Nous redoutions tout à la fois la police, la droite extrême ou l'embuscade sioniste, mais lui ne craignait rien de ces coups-là. Après avoir connu la dictature, la bataille d'Athènes et la prison, il disait que nos combats étaient un genre d'opérette. Il ne jugeait pas notre engagement. Il affirmait simplement qu'au matin, personne ne manquerait à l'appel. Qu'aucun corps mort ne resterait jamais derrière nous. Il disait que notre colère était un slogan, notre blessure un hématome et notre sang versé tenait dans un mouchoir de poche. Il redoutait les certitudes, pas les convictions. À Athènes, il chantait « Pain, éducation, liberté ». Le plus beau mot d'ordre jamais pétri par la colère des hommes, disait-il. En janvier 1974, lorsque Samuel Akounis est entré dans ma vie, nous avions déjà 2 Chiliens dans nos rangs. Ils appartenaient au mouvement de la gauche révolutionnaire. Ils avaient quitté Santiago quelques jours après le coup d'État. Après 1 mois à Londres, ils avaient choisi la France pour sa langue et Paris pour sa commune. Ils y vivaient en clandestin. Le grec, lui, est arrivé comme ça, passé d'Athènes à la vie 34B de la faculté de Jussieu pour témoigner de la dictature des colonels. La salle était comble. J'étais au premier rang, assis sur les marches, jambes droites tendues. J'ai frissonné. Un résistant nous faisait face. Je m'appelle donc Samuel Akounis et je vous apporte aujourd'hui le salut des étudiantes et des étudiants de l'école polytechnique qui ont bravé les chars de la dictature, mot qui mériterait d'être masculin. Et puis Samuel a raconté, sans effet, sans émotion, un récit précis et sombre. Le 14 novembre 1973, les syndicats étudiants de l'école polytechnique votent la grève des cours. Des centaines d'autres convergent de toutes les écoles en appelant à la chute de la dictature. Dans la nuit, ils sont des milliers rassemblés autour du bâtiment. Le lendemain, les habitants viennent en renfort, jeunes, vieux, familles avec enfants. Polytechnique est occupée, les grilles cadenassées par les élèves. Mise en place d'un service d'ordre, distribution des tâches, ravitaillement, couchage, filtrage des entrées. Une infirmerie est installée, une radio libre bricolée, qui émet dans toute la ville.
Oui, radio libre.
Des barricades sont érigées sur les avenues. Voici venir les comités de paysans, les ouvriers, les simples gens lassés des colonels. Voilà Nikos Xylouris, l'artiste crétois, qui chante au milieu des grévistes. Ils sont entrés dans la ville, les ennemis. Le grec parlait, l'amphithéâtre se taisait. Nous n'étions pas habitués à cette économie de mots et de gestes. Il racontait comment on se confie, reprenant sa respiration comme au sortir de l'eau. J'ai pensé à de l'asthme, et donc à Guevara. Il n'attendait de nous ni félicitations ni compassion pour ce qui allait suivre. Cette fin que nous savions par cœur, de l'avoir tant lue dans les journaux, qui n'y comprenait rien. Cet héroïsme que nous avions partagé de toute notre colère, la beauté pathétique des mains nues face aux canons blindés. Combien d'entre nous s'étaient vus enchaînés aux grilles de l'école tenant tête à la mort. Je m'étais rêvé en héros, je n'osais plus croiser le regard de Samuel Akounis. Il racontait la nuit du drame, samedi 17 novembre. Après 56 heures d'occupation, plus de 20 chars prennent position autour de l'école. À l'intérieur, ils sont plus de 5000 et 10 000 dans les rues alentour. « N'ayez pas peur des blindés !» répète en boucle la radio rebelle. Les étudiants tentent de négocier une sortie honorable. Ils demandent une demi-heure pour libérer les lieux. Mais un tank M40 enfonce la grille comme un bélier à la lueur des projecteurs de guerre. Il écrase le portail de fer où les étudiants sont agglutinés. Le grec a bu un autre verre d'eau. J'ai été blessé par une broche de la grille entrée comme une flèche dans ma cuisse. Je suis revenu chez moi en boitant. J'ai mis quelques affaires dans un sac et je suis allé me réfugier chez des amis à Salonique. J'étais connu comme un opposant. Le lendemain, la police est venue me prendre, mais c'était trop tard. J'avais mis un an à obtenir un passeport de touriste et un visa valable pour l'Europe. Une semaine après, j'étais en Italie et aujourd'hui ici, parmi vous qui nous avez soutenus. Je le sais et vous en remercie. J'ai toussé ma gêne. Les autres ont applaudi. Tout en haut de l'amphithéâtre, un garçon a sorti un drapeau grec de son sac et l'a agité à la manière d'un mouchoir de bienvenue sur un quai d'arrivée.
Donc voilà, Samuel, il est à la Sorbonne, il est à Jussieu, il est avec les étudiants français dans les années 70 pour participer aux luttes. Et en effet, il va participer aux luttes de soutien pour les Palestiniens, aux luttes de soutien des travailleurs en grève. Mais en même temps, il reste metteur en scène, il reste homme de théâtre. Et d'ailleurs, un autre jour, à Jussieu ou à la Sorbonne, un comédien va continuer à le présenter. Un comédien français qu'il avait rencontré en Grèce va parler justement de cette rencontre. Et voilà ce que dit ce comédien français. J'étais là-bas, j'étais à Athènes, oui, c'était le régime des colonels. Un soir, j'avais réservé une place pour Ubu Roi, mise en scène en français par Samuel Akounis. Et j'ai été saisie par la mise en scène, par le metteur en scène. Ben oui, ce grec, c'était quelque chose. Et le comédien a continué. J'avais le cœur battant, une allure, une démarche, tout dans la mise en scène fonctionnait. J'étais persuadée au départ que le théâtre du Rebetiko, où on passait Ubu, serait fermé comme les autres. Mais j'ai décidé de vérifier. Et en fait, c'était un spectacle étrange mêlant des comédiens et des marionnettes blanches. Et ce soir-là, la troupe a comme improvisé. Ce qui se jouait sur scène, ça répondait au théâtre de la rue. Samuel Akounis avait demandé à ses acteurs de remplacer Père Ubu par Georgios, le prénom du chef militaire de la junte. Et parmi les spectateurs, malheureusement, il y avait un mouchard ou quelqu'un qui n'avait pas supporté l'offense faite à Jarry. Deux jours plus tard, à nouveau, notre ami ici présent était interrogé et arrêté par l'Asphalia dans les locaux de la sûreté. Il a eu les ongles arrachés, le torse brûlé aux cigarettes, les plantes de pied lacérées par des tuyaux de plomb. Et ses tortionnaires l'ont étouffé au gaz, un aérosol au chlore enfoncé dans la bouche. Ah ben oui, donc, je me suis dit, c'était pas de l'asthme. C'était pas tout à fait de l'asthme, sa respiration hachée. Mais, reprend le comédien, il n'a été ni jugé ni emprisonné. Il a juste été déporté au camp de repos et puis relâché un jour. On ne savait pas trop pourquoi. Il y est resté un an avec des centaines d'autres, comme Mikis Theodorakis. Après avoir été relâché, il a été placé sous surveillance et il n'a jamais voulu quitter le pays. C'est comme ça qu'il a participé à l'occupation de l'école polytechnique qu'on vous a racontée il y a quelques jours. C'est comme ça aussi que... Il avait donné à Polytechnique une représentation sauvage de l'Antigone d'Anouilh. Et cette représentation de Antigone, il veut la reprendre. Il s'est résigné à l'exil, Samuel Akounis, mais il n'arrêtera jamais le théâtre. Le comédien s'est arrêté. Son exposé était terminé et Samuel devait s'en aller. Alors je me suis frayé un passage. Je suis allée vers le bureau. Ouais, le grec n'avait pas bougé, il regardait ses mains et à ce moment-là, j'ai tendu la mienne. « Je m'appelle Georges, je voudrais bien aussi faire de la mise en scène. » Mais oui, on est plusieurs, on essaie de faire du théâtre. Il s'est levé, vaguement surpris, il nous a souri. Et moi j'ai dit, « J'ai été blessée à la jambe aussi l'année dernière par les fascistes. » Il a hoché la tête. Je ne sais pas pourquoi je lui avais raconté ça, mais brutalement, ça m'était venu que cet homme, je pouvais tout lui dire. J'ai eu un peu honte de moi, j'ai baissé les yeux, mais quand même, il a gardé sa main dans la sienne. Et bah oui, à partir de là, il serait comme mon frère. Il avait 34 ans, j'en avais 24. Il a continué à faire du théâtre, moi aussi. Pas de la même façon, mais on avait bien des choses à se dire. Alors, en attendant que Georges nous en dise plus, on va passer à un morceau de musique libanaise, bien sûr. Donc, on vous laisse quelques minutes.
ديك وعد القدرة والناس رايح وين مسافر تروح تتعيا وتولي شعال الندم والعباد الغافلين قبلك وقبلي.
Merci, merci Rachid Taha de nous avoir chanté l'exil et les douleurs de l'exil. On va reprendre notre histoire de Georges et Sam, Sam et Georges. L'histoire se poursuit pour l'instant toujours à Paris.
Le 23 juillet 1974, Sam m'a emmené boire un verre boulevard de Sébastopol. Ce soir-là, en terrasse, j'avais presque le cœur léger. Depuis le matin, la radio ne parlait plus que de la Grèce. Après le coup d'État à Chypre, voilà que les colonels rendaient le pouvoir aux civils. Fin de la dictature. 7 ans de malheur, gommés d'un coup. Lorsque Sam est passé au local de Jussieu, ce matin de juillet, les filles l'ont embrassé en le félicitant, et les garçons lui demandaient quand il repartait. « Un jour, certainement », a répondu le grec. Depuis longtemps, j'avais compris qu'il nous rendait visite par courtoisie. S'il assistait à quelques réunions, s'il levait mollement le drapeau rouge, s'il manifestait parfois dans nos rangs, ce n'était pas par conviction, mais pour nous remercier de l'avoir soutenu. C'est pour cela que je tenais à Sam. Il était mon reste d'évidence. Ni slogan, ni passage d'un livre, ni mot d'ordre peint sur un mur de la ville. Samuel Akounis incarnait notre combat. Son arrivée parmi nous, même tardive, même timide, m'avait redonné du courage. Il était ma résistance et notre dignité. Quelques jours plus tard, nous avons parlé théâtre pour la première fois. Sam était invité au festival de Vaison-la-Romaine où se jouait l'Antigone d'Adouille, mise en scène par Gérard Dournel. Liliane Sorval jouait la fille d'Oedipe, roi de Thèbes. Et son oncle Créon était interprété par Jean-Roger Caussimon. Bientôt, je me remettrai au travail, mais je ne suis pas encore prêt. Je regarde, j'apprends, j'écoute, je rattrape les jours volés. C'était la deuxième fois qu'il me parlait d'Antigone. Il l'avait joué à l'école polytechnique d'Athènes avant l'arrivée des chars. Maintenant, il partait la retrouver dans le sud de la France. De son sac, il a sorti une Antigone éditée à la Table Ronde en 1945. Il l'a agitée comme un poing levé. J'ai souffert avec la petite maigre et elle a combattu à mes côtés. Nous étions place du Palais Royal pour une autre bière en trottoir. La petite maigre, Sam s'est raidi. Sa façon de froncer les sourcils, toujours, il plissait les paupières comme s'il réfléchissait intensément. Tu ne te souviens pas de l'entrée en scène du prologue ? Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Sa voix de théâtre avait une autre voix. Elle chuchotait la soie des mots. Lorsque le rideau se lève, les acteurs sont en scène, occupés à ne pas nous voir, protégés par le quatrième mur. Le quatrième mur. J'avais déjà entendu cette expression sans en connaître le sens. Le quatrième mur, c'est ce qui empêche le comédien de baiser avec le public, a répondu Samuel Akounis. Une façade imaginaire que les acteurs construisent en bord de scène pour renforcer l'illusion. Un mur qui protège leur personnage. Pour certains, un remède contre le trac. Pour d'autres, la frontière du réel. Une clôture invisible qu'ils brisent parfois d'une réplique s'adressant à la salle. Souviens-toi des premières secondes. Tous les acteurs sont présents, aucun n'est en coulisses. Il n'y a pas d'arrière-scène, pas d'entrée fracassante, de sortie applaudie, pas de claquement de porte. Juste un cercle de lumière où entre celui qui parle. Et l'obscurité qui recueille celui qui vient de parler. Le décor, une volée de marches, un drapé de rideaux, une colonne antique. C'est le dépouillement, la beauté pure. Son regard, toujours. Ne me dis pas que tu as oublié Antigone. J'ai gagné du temps, les lèvres dans le vin. Je l'ai lu comme Boris Vian, un bagage adolescent, en première. Sam a ri, pas méchamment. Il ne blessait jamais celui qui venait de parler. Demain, j'irai acheter Antigone chez Maspero. Je veux que tu le relises. Celui d'Anouilh ? Sam a haussé les épaules. Oui, Anouilh, bien sûr. Anouilh, évidemment, Anouilh. Et Sophocle ? Le grec a balayé ce nom. Il disait l'Antigone de Sophocle réduite au devoir fraternel et prisonnière des dieux. Sa colère est soumise au divin, alors que la petite maigre te ressemble. Me ressemble ? En 24 siècles, elle est passée d'un cœur rituel offert à Dionysos à une histoire moderne, du religieux au politique et du tragique à la tragédie absolue. Quel rapport avec moi ? Une héroïne du nom qui défend sa liberté propre. Devine. J'ai rendu son sourire à Sam. D'accord pour Anouilh. Merci de me l'offrir, je lirai. J'ai promis ça comme on donne l'heure à un passant pressé. Je n'imaginais pas l'importance du cadeau de Samuel Akounis que Samuel Akounis venait de me faire. Lui non plus ne devinait pas que cette terrasse de juillet changerait la vie, sa vie et la mienne. Il m'a offert Antigone. J'ai accepté le livre comme une lettre d'adieu. J'étais triste et inquiet de nous. Mon ami a souri. Depuis l'altercation avec les vigiles, il respirait mal. Ne te fais pas de film, nous allons nous revoir. J'ai ri. Il connaissait mes peurs, mais les respectait. Jamais il ne me mettrait en danger. Je savais le danger. J'en avais une conscience animale, un instinct de caverne.
Donc une fois encore, Georges et Sam se sont rencontrés autour du théâtre et cette fois, en effet, Sam a commencé à passer le relais à Georges concernant Antigone. Alors c'est drôle parce que là, vous avez eu dans les pages de Serge Chalandon une petite étude littéraire sur la comparaison entre l'Antigone de Sophocle et l'Antigone d'Anouilh. Il nous a passé la Thébaïde de Racine, mais finalement, évidemment, le mythe d'Œdipe, tout le monde le connaît, et la vie d'Antigone et la résistance d'Antigone contre Créon, on la connaît aussi précisément à travers Sophocle, Racine ou Anouilh, et bien sûr chez Anouilh dans une langue complètement contemporaine, une langue dont Sam dit à Georges qu'en effet c'est la sienne, et aussi une résistance dont il lui dit que c'est la sienne, puisque Antigone s'est restée en effet celle qui dit non. Dans Sophocle, elle dit non pour des raisons religieuses, et dans Anouilh, en effet, elle dit non pour des raisons qu'on pourrait appeler politiques. Il faut se souvenir que l'Antigone d'Anouilh a été écrite fin 43, début 44, jouée en effet en 1944 avec l'autorisation de l'armée allemande d'occupation, mais pour dénoncer tout de même cette occupation, c'est Créon bien sûr, la loi, et pour mettre en avant la nécessaire résistance, puisque c'est Antigone qui incarne la résistance au pouvoir et la résistance, bien sûr, à l'injustice et, en l'occurrence, à l'occupation nazie. Donc, le témoin passe de Sam à Georges, puisque Georges promet de relire Antigone et de se souvenir dorénavant d'Antigone. On a encore un petit peu l'histoire de Sam, l'histoire de Georges, ces histoires qui vont se croiser au fil des pages. Il est question ici de Sam. Il avait monté une compagnie, une vraie, à demeure, avec des murs et un toit. Il disait que la troupe était le matériau de son théâtre. Inventer une famille, le temps d'un spectacle, ne lui suffisait plus. Il voulait jouer en confiance, comme face aux chars de son vieux pays. Un socle d'amis, à tout jamais. Comme ses héros de la paix, Roger Planchon, et Patrice Chéreau, son théâtre, le théâtre qu'il voulait, c'était un théâtre de langue et d'image. Un rêve de poche, dans le nord de Paris, il l'avait baptisé le Petit Diomède, en hommage à Diomède Comnénos, abattu à 16 ans d'une balle dans la tête le 16 novembre 1973, alors qu'il marchait justement vers l'école polytechnique. Sam m'avait demandé de le rejoindre dans la troupe du Petit Diomède, mais j'avais refusé, je voulais faire de la mise en scène, je voulais continuer à faire des recherches théâtrales pour moi. Et puis j'ai eu un enfant aussi, je suis devenu père, j'ai mis peut-être un peu d'eau dans mon vin. Je me suis retrouvée père en hiver, tout d'un coup, avec la peur au ventre, la peur de l'avenir, la peur de devoir construire un avenir. J'étais passée de l'étudiant en histoire qui faisait du théâtre à l'homme qui, finalement, tenait le lendemain et l'histoire et l'avenir dans ses bras. Louise, c'était Louise, elle était ravissante, oui. Les petits se ressemblent tous quand ils arrivent. Et là, ce jour-là, j'étais assise sur un tabouret à côté du lit où reposait sa mère. Et je les laissais se reposer, toutes les deux. Et puis, je suis sortie pour m'échapper. J'ai bu. J'ai choisi une brasserie, un zinc, au coin d'une rue, avec des gueules cassées, des verres qui se remplissent, des verres qui se vident, les échanges de regards. J'ai dit aux zinc, à ceux qui me trouvaient là, je suis père maintenant. Alors oui, j'ai refait les cauchemars de l'enfant qui ne s'en sortait pas, j'ai refait les cauchemars de celui qui était responsable. Mais tout de même, je voulais grandir, je voulais faire de la mise en scène. Je voulais me mettre en scène aussi, avoir d'autres habits, d'autres gestes, une autre voix, un autre texte. Depuis la maternelle, je n'avais jamais cessé d'être acteur. J'avais monté plein de petites pièces, j'avais inventé des rôles. Et je m'étais mis à lire, bien sûr, des pièces pour monter les textes des autres. Au lycée, j'avais monté une troupe aussi, la troupe des quatre planches. Et ces petites troupes, bah oui, elles avaient existé. Et j'avais passé mon bac en 68. J'avais pas eu d'épreuves écrites, mais seulement un grand oral. Et on m'avait demandé comment j'allais. Enfin bon, j'avais parlé de Rimbaud, de Ronsard, de l'amour. En histoire, on avait évoqué le présent. L'ordre qui avait laissé la place à la liberté quelques semaines. J'avais lu ce slogan sur un mur et ça avait fait sourire le professeur. Lui, il avait un bras bandé, je ne sais pas pourquoi. Des élèves juraient qu'il avait connu la matraque, mais je n'en ai rien su. Enfin bon, à chacun de mes mots, il hochait la tête, comme un chien de feutre sur la plage arrière d'une voiture de vacances. Et ce n'était pas par politesse, finalement. Il était d'accord avec ce que je disais. Il devait avoir été militant aussi, en effet. C'était enivrant, quelque part. Alors ce jour-là, oui, je suis devenue père, j'ai pris Lise dans mes bras, j'ai grandi et j'ai continué à faire du théâtre. Et puis après, il a bien fallu que je retrouve la vie et j'ai retrouvé, bien sûr, Sam et Antigone. Sam et son Antigone. Alors, où est-ce qu'il en était, lui ?
Sam était en train de lire un texte lorsqu'il m'a fait entrer. Son calme me rendait fou. Souvent, il éteignait l'électricité et allumait des bougies. Il écoutait à l'infini quelques notes du Requiem de Maurice Duruflet. Je cherche où je dois lire.
Mais tu continues.
Non, c'est tout barré, c'est barré jusque-là. Sam, le compositeur, était cloîtré chez lui après avoir été grièvement blessé dans un accident de voiture. Mon ami disait que ce musicien n'écrivait plus rien. C'est le musicien, ouais, c'est bizarre la phrase. Que cette œuvre liturgique était le legs de Duruflet à Akounis. Puis Jésus, le beau verset, il voulait une mezzo-soprano dans la pièce. Il rêvait de cette pureté pour la dieu d'Antigone.
Donc en fait, Sam est en train de monter ou de commencer à avoir l'idée de monter Antigone. Il veut une musique de Duruflet comme musique d'entrée en scène. Et puis il commence à nous expliquer ou à expliquer à Georges un certain nombre de choses concernant justement la mise en scène.
Antigone, je ne sais plus pourquoi je meurs. Et puis l'inspiration de la cantatrice, le temps suspendu, ses premières notes, le violoncelle au loin, léger comme le vent. En fait, qui était-il ? Un metteur en scène grec qui avait joué Uburoi sous la dictature et qui avait été maltraité pour ça ? Et quoi ? Rien de plus ? Non, rien. Il avait parlé théâtre. Il avait été invité partout. Pour dénoncer la dictature, il avait parlé théâtre. Il avait été porté en triomphe au milieu des drapeaux rouges, noirs, vietnamiens, chinois, chiliens, palestiniens, basques. Il avait levé les bras. Il avait souri, il avait parlé théâtre. Il avait pris nos luttes pour en faire des répliques. Il avait scénarisé notre combat. Il était ailleurs, distant, jamais sur scène. Il s'était promené en coulisses, épiant ce que nous étions. Jamais je n'avais autant aimé un homme. De ma vie, jamais. Je m'en voulais de ne pas comprendre ses silences. Ce que nous vivons est difficile, mais ce n'est pas la guerre. Vous n'êtes pas des résistants, et Giscard n'est pas Pétain. Il s'est servi d'un verre d'ouzo. Il s'est servi un verre d'ouzo. Je vais te choquer, mais je ne crois pas non plus que tes petits copains d'Assas soient des nazis ou des fascistes. Ce sont des mots pour rien. Ce sont des démocrates peut-être, des racistes dangereux. C'est ce qu'ils sont, mais ils ne sont pas Klaus Barbie.
Bref, on discute entre Georges et Sam, entre Sam et Georges, pour savoir quelle est la réalité du combat.
Tu sais ce que je vois là ? Ni un résistant, ni un héros, ni une légende, mais un juif de Salonique, devenu grec par l'exode, français de préférence et metteur en scène, parce que lorsque je n'ai plus d'idées, j'invente un personnage. C'est tout, et ça me va.
Donc, il y a des discussions entre Georges et Sam sur le théâtre, mais il n'empêche que Georges continue à être séduit et que il continue à suivre le travail de Sam. Et puis, malheureusement, Sam tombe malade. Et il tombe gravement malade, puisque, en fait, les traces des tortures qu'il a subies, en particulier au gaz, se retrouvent dans des maladies des poumons et dans une maladie respiratoire grave dont il ne va pas se sortir. Georges raconte donc une visite à l'hôpital. Sam était seul dans la chambre. Il parlait à voix faible. Il s'excusait. Oui, il aurait dû me dire qu'il était malade. Il était revenu en France après être allé travailler en Grèce. Il était revenu en France après être allé travailler au Liban. Mais il souffrait vraiment de la poitrine. Il ne respirait plus qu'à peine. Il avait aussi des maux de tête et des articulations douloureuses. Pourtant, je n'ai jamais fumé de ma vie. Mais il avait repensé, oui, à ses tortures subies, à ce gaz dans la gorge, à ce fait qu'il était si souvent épuisé en montant un escalier. Et certains jours, il crachait du sang. Enfin, c'est sûr, Sam s'y était pris trop tard pour se soigner. Il avait perdu l'appétit, il avait maigri, et à Beyrouth, il avait suivi les conseils des médecins qui lui avaient dit de repartir pour Paris. Alors oui, à Paris, il était hospitalisé, mais finalement, il n'y avait plus grand-chose à faire. Je lui en voulais, je m'en voulais aussi. La fin du mouvement, la fin de la résistance des étudiants nous avait séparés. La vie s'était chargée de nous disperser. Sam m'avait donné son adresse à Beyrouth, son numéro de téléphone, mais finalement je ne l'avais jamais appelé. Ça me suffisait qu'il existât. Oui, il existait pour moi quelque part et c'était bien. Je pensais que notre amitié se nourrissait de distance. Et puis finalement je m'étais trompée, j'avais perdu des années à ne pas le suivre. Je me suis levée, j'ai regardé par la fenêtre de l'hôpital. L'hiver avait saisi la ville. La ville frissonnait sous des plaques de givre. Non, au départ, Sam n'avait même pas voulu que j'aille le voir à l'hôpital. Mais depuis 1979, il avait partagé sa vie entre Beyrouth et Paris. Et là, revenu en France, contraint et forcé, il avait repris son travail et il m'avait appelé pour que je le reprenne avec lui. Il était enroué, il se disait fatigué, mais il montait toujours deux spectacles en parallèle. Brecht à Paris et puis cette fameuse Antigone d'Anouilh à Beyrouth. Un jour, il avait même eu les honneurs de libération. Un Grec est parti se faire voir chez les Libanais. Le titre de l'article était insolite, mais l'article, lui, était favorable. Il y avait un portrait en dernière page de Samuel Akounis avec un article, oui, sur l'enfant rescapé, le résistant juif devenu sioniste mais pro-palestinien, et puis le résistant grec, le résistant français, enfin bref. Le journal racontait qu'il savait cogner aux portes et qu'il avait bien défendu son théâtre de poche. C'était difficile, bien sûr. Il fallait trouver de l'argent dans les centres culturels, les associations, les ministères. Et, disait Libération, il n'en est pas resté là. Le Liban l'a attrapé par le col. Et puisqu'il avait déjà été attrapé par Antigone, envoûté, oui, il est parti monter Antigone au Liban. Depuis toujours, il avait voulu monter la pièce noire d'un ouï dans une zone de guerre, offrir un rôle à chacun des belligérants, faire la paix entre cour et jardin. D'abord, il avait pensé à la Grèce, mélanger anciens opprimés et anciens oppresseurs pour une représentation au théâtre de Dionysos sur les pentes de l'Acropole. Il avait imaginé le public sous la lune de l'été, assis entre l'herbe et les pierres anciennes. Pourquoi Antigone ? Avait demandé le journaliste de Libération. Mais parce qu'il y est question de terre, de fierté et de résistance, lui avait répondu Samuel Akounis. Finalement, il avait trouvé son Antigone, une actrice grecque passée par la prison. Il avait aussi trouvé la nourrice. Mais finalement, ses camarades n'avaient pas partagé ses idées. Mélanger victimes et bourreaux, c'est pas terrible, hein, avait accusé un militant communiste. Il avait tout fait pour convaincre des officiers en retraite, une amicale de policiers, mais finalement, ça n'avait pas marché. Il avait donc renoncé. Et puis, il était parti pour le Liban. Il était parti voir les chrétiens libanais qui avaient attaqué le bidonville palestinien de la quarantaine à Beyrouth. Il avait rencontré tous ces miséreux entassés dans des baraques recouvertes de tôle. Et après les bombardements, eh bien oui, il avait rencontré à la fois les Palestiniens bombardés et les miliciens, les femmes et les enfants, ceux qui avaient survécu. Évidemment, il n'avait pas rencontré les hommes, ceux qui avaient été fusillés. Les quartiers palestiniens avaient été dynamités. Et puis après, Palestiniens, Libanais avaient finalement recommencé à vivre ensemble. Hommes, femmes, enfants, des vivants, des assassinés, des morts profanés dans leurs tombes, le supplice d'une ville, le martyr de différents quartiers. Oui, je me souviens que j'avais croisé Sam à ce moment-là. Il était complètement effondré par la guerre au Liban, mais il ne renonçait pas à son idée. Je l'avais senti, je l'avais su. Il voulait retrouver Antigone sur les tréteaux. Il voulait retrouver la paix dans une troupe sur des tréteaux. Il avait eu la fièvre pendant des mois. Il cherchait des acteurs. Il avait contacté l'ambassade de France, le consulat, le centre culturel, l'association française d'action artistique, des amicales, des clubs, des deux côtés de la ligne de front. Des musulmans, des jeunes, oui, des jeunes sunnites de Hamra, et puis un groupe de chiites d'un théâtre qui existait déjà à Taizier. Et puis, finalement, il avait aussi découvert une compagnie palestinienne à Chatila qui jouait des poèmes de Mahmoud Darwish. Et avec de la patience et du temps, il avait débusqué deux associations de spectacles druzes dans la montagne et des acteurs chrétiens. Et donc, à tous, il avait dit qu'il était grec, qu'il était metteur en scène et qu'il voulait monter Antigone au Liban. Chaque communauté a cru qu'elle était la seule sollicitée. Sam n'avait pas, au départ, trouvé le courage d'expliquer son projet à la lettre. Il attendait que tous soient là, il attendait de leur faire face pour leur raconter. Et puis, oui, il les avait rassemblés. Et donc, dans le courrier qu'il avait envoyé à tous, il parlait, bien sûr, d'Anouï et d'Antigone. Eh bien, on va les laisser... On va les laisser là où ils en sont, dans la préparation de la pièce de Sam, dont on sait maintenant que c'est pas Sam, finalement, qui va la réaliser, mais c'est Georges. Alors, je vais vous laisser avec une nouvelle chanson libanaise, en vous souhaitant une bonne semaine, et bien sûr, en vous retrouvant la semaine prochaine pour la suite de Le quatrième mur de Sorge Chalandon.
غريبين ليل بساحة اجتمعوا صيف وحرب ليل يصب في وجدمعه لا سألها من وين ولا من تلاقى وين يمكن حكيوا العينين وبالسر توجعوا غريبين راحوا ما تودعوا مش وقت ونجماتك يا صيف السني ما زهروا ما حدا عطرها غير عسكر وخيالك صور من